hebdomadaire de tous les mercredis. La conférence de ce jour sera animée pour l'équipe pays des Nations Unies, pilier humanitaire, Dorothée Clet, pour le pilier développement, Sylvestre Moudingaï. Le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse est ici pour nous parler de la situation sécuritaire et militaire. Je suis Madnoj Mounoubaï. Encore une fois, bonjour à tous nos auditeurs. Nous commencerons avec les composantes de la MONUSCO, droits de l'homme. Le 9 juillet 2013, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié un communiqué de presse pour marquer le deuxième anniversaire de la promulgation de la loi portant criminalisation de la torture. Ce communiqué vous sera distribué à la fin de cette conférence de presse. Il est aussi disponible sur le site de monusco.org. Le 11 juillet 2013, la situation des femmes en RDC sera examinée à Genève devant le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. La ministre congolaise de la Justice et des Droits Humains ainsi que plusieurs représentants de la société civile ont fait le déplacement à Genève pour être entendus par ce comité d'experts. Les sessions du comité sont publiques et peuvent être suivies sur Internet à www.treatybodywebcast.org. Vous pouvez avoir ça après la conférence de presse. Nous passons à l'information publique. L'unité de communication sociale de la division de l'information publique de la MONUSCO a terminé une série de séances d'information dont le but était de mieux faire connaître le mandat de la MONUSCO à travers la résolution 2098 du 28 mars 2013. Entre le 27 juin et le 4 juillet, elle a rencontré environ 400 élèves et étudiants ici à Kinshasa. Cette campagne se poursuivra jusqu'au 30 juin. Par ailleurs, les équipes de l'information publique et de conduite et discipline de la MONUSCO de Goma ont aussi échangé du 26 au 4 juillet avec les étudiants de trois institutions supérieures et universitaires de Goma sur la prévention des abus et exploitations sexuelles. Il s'agissait d'informer ces étudiants sur la politique de tolérance zéro appliquée à tout le personnel des Nations Unies qui serait coupable de tels actes. Auparavant, ce sont 44 professionnels venant de la police nationale congolaise et du parquet de Goma qui ont participé le 3 juillet 2013 à une séance d'information organisée par la section de la sécurité, la section de la police MONUSCO, la section d'appui à la justice et l'équipe de conduite et discipline de la MONUSCO. Les buts étaient de familiariser ces acteurs de la chaîne pénale avec le mandat de la MONUSCO et le rôle de ces différentes sections dans la prévention et la répression de mauvais comportements de personnel militaire et civil de la MONUSCO. Nous terminerons avec l'unité genre. Le bureau genre de la MONUSCO à Kinshasa organise avec ses différents partenaires du 9 au 10 juillet 2013 au siège de la police nationale congolaise deux ateliers de sensibilisation des éléments sur les éléments de l'intégration genre dans le travail de la PNC. Cet atelier entre dans le cadre du renforcement de capacités opérationnelles de ses partenaires traditionnels pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et l'intégration du genre dans les activités de sécurisation et de protection des femmes et des filles en RDC. Pour sa part, le bureau genre de Kisangani organise à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 20 juillet 2013 un séminaire de sensibilisation sur l'état des lieux et action prioritaire de la lutte contre les violences sexuelles et celles fondées sur le genre en province orientale. Le but de ce séminaire est de contribuer à la prévention et à la réduction des violences sexuelles et celles basées sur le genre et à l'amélioration de la prise en charge holistique des victimes et survivantes, y compris la rééducation des auteurs de violences sexuelles basées sur le genre. Je passe maintenant la parole à Dorothée Clet.
Merci, bonjour à tous. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, nous annonce qu'une matinée d'échange sur les potentialités de la province orientale a eu lieu ce lundi 8 juillet. Les échanges ont porté sur deux thématiques liées au développement de la province orientale. Le premier thème, bâtir un partenariat dynamique pour le développement durable, était destiné aux partenaires du développement. Les opérateurs économiques ont discuté, quant à eux, du rôle du secteur privé dans le développement de la province. Le PNUD a apporté un appui financier et technique à l'organisation de ces débats. Selon le directeur pays du PNUD, M. Adama Koulibaly, les ressources de la province orientale n'étant pas suffisantes au soutien de son développement, le soutien financier et technique des partenaires s'avère nécessaire. Il s'est réjoui des efforts déjà entrepris et de la volonté d'accroître la confiance des populations et des investisseurs. Il a réaffirmé la volonté du PNUD d'accompagner la province dans l'organisation de sa table ronde économique en novembre prochain. Le PNUD annonce également que c'est vendredi 12 et samedi 13 juillet, le ministère du Plan organise, avec l'appui du PNUD, la revue annuelle du DSRP 2 et du programme du gouvernement. Le DSRP 2 est donc le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté en RDC, qui est pour rappel le cadre national d'intervention en matière de développement pour la période 2011-2015. L'objectif de la revue est d'organiser un cadre permanent de concertation entre les acteurs centraux, provinciaux ainsi que sectoriels, dans le but d'améliorer d'une part les politiques et stratégies résumées dans les plans nationaux et provinciaux de développement et d'autre part de faire l'évaluation de leur mise en œuvre. Cette revue va réunir toutes les parties prenantes autour des thématiques prioritaires suivantes: l'agriculture et le développement rural, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'énergie et la gouvernance au niveau national et provincial. La revue sera organisée selon une approche participative et inclusive. Y prendront part les membres du gouvernement central et des gouvernements provinciaux, les responsables des différents services de l'État, les représentants de la société civile ainsi que les partenaires au développement. Les participants à cette revue vont jeter les bases de la préparation du rapport périodique de mise en œuvre des stratégies et programmes nationaux et provinciaux de développement. Merci.
Merci. Je passe la parole maintenant à M. Sylvestre Moudingay.
Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Capi. Des réfugiés ougandais dans le territoire d'Aro, en Ituri, dans la province orientale. Ils sont environ 2500 selon les autorités locales et arrivent depuis 2 semaines fuyant les affrontements intercommunautaires dans le district d'Arua en Ouganda. Ces personnes vivent dans des familles d'accueil et ont besoin d'assistance en abri, eau, hygiène et assainissement, et ainsi qu'en vivres. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évalue actuellement la situation pour déterminer si ces réfugiés vont rester plus longtemps ou pas. Le HCR, en concertation avec le Programme alimentaire mondial, planifie une assistance en articles ménagers essentiels et en vivres. Puisque nous parlons de réfugiés, signalons le rapatriement de plus de 2600 réfugiés rwandais du Nord Kivu depuis le début de cette année. Selon le HCR, environ 127 000 réfugiés rwandais vivent actuellement en République démocratique du Congo. Pour la 4e fois depuis le début de cette année, les travaux de réhabilitation de la route Kingulu-Beiseya dans le territoire de Shabunda ont été interrompus à la suite d'une injonction des éléments Raya Mutomboki demandant aux agents de l'Office de route, partenaire du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, d'immobiliser les engins affectés à cette réhabilitation et de quitter la zone. Cette route est importante pour la communauté humanitaire, notamment pour l'assistance des personnes vulnérables. Le territoire de Shabunda est l'un des plus inaccessibles de la province suite au délabrement des routes. Lancement demain à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, de la première phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 16 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont ciblés par cette campagne sur l'ensemble du territoire national. En même temps que la vaccination, il sera aussi procédé à la supplémentation en vitamine A pour renforcer l'immunité des enfants et au déparasitage au mébendazole. Une particularité pour cette campagne, les JNV seront couplés avec l'enregistrement des enfants à l'état civil dans 17 zones de santé. Depuis le 20 décembre 2011, la RDC n'a plus enregistré de nouveaux cas de poliovirus sauvage, mais il y a lieu de rester vigilant afin de ne pas permettre à cette maladie invalidante de refaire surface en RDC. 3 zones de santé dans le district de santé de Kabinda, dans le Kasaï oriental, ne connaîtront les GNV que la semaine prochaine. Ces zones de santé, Kamana Lubao et Lubindi Lukula, ont débuté hier la vaccination contre la fièvre jaune. Le ministère de la Santé publique a planifié cette vaccination d'urgence en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et Avia Alliance, espère atteindre au moins 95% de 500 000 personnes ciblées, dont 85 000 enfants de moins de 5 ans. Organisé par le ministère de la Santé, les GNV contre la poliomyélite et la vaccination contre la fièvre jaune sont appuyés notamment par l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance.
Merci Sylvestre. Sans plus tarder, je passe la parole au lieutenant-colonel Félix Basse pour la situation sécuritaire et militaire.
Merci monsieur le porte-parole et bonjour à tous. Donc nous démarrons par l'ouest de la République démocratique du Congo où la situation a été relativement calme durant la semaine écoulée. En province orientale, une stabilité relative a été observée pendant la période sous examen. La force de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, poursuivent leurs opérations conjointes dénommées Rudia 2 ou Retour 2, Bienvenue à la paix et Point d'acier, initiées dans les régions de Dungu, Duru et Faradje, dans le but de neutraliser mais également de pousser à la reddition les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI se singularisent toujours par leurs activités négatives au sud du territoire de Rumu dans le district d'Ituri, rendant ainsi la situation sécuritaire tendue dans cette région. C'est dans ce cadre que la force de la MONUSCO et les FRDC poursuivent dans ce district leurs opérations conjointes dénommées Pierre d'Acier et Serre de l'Aigle dans le but de sécuriser les populations. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire jugée tendue la semaine dernière est plutôt restée sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. C'est pourquoi la brigade du Nord Kivu de la force de la MONUSCO poursuit sans relâche ses 7 opérations unilatérales dans le but de contrer toute menace des groupes armés contre la ville de Goma, mais également d'assurer la protection des populations civiles contre les activités du M23. Le 5 juillet 2013, les éléments du M23 ont arrêté et incarcéré 40 jeunes hommes accusés de collaborer avec les Maïmaï Nyatura dans la région de Rutshuru. Le 6 juillet, approximativement une quarantaine d'éléments armés ont attaqué les positions du M23 dans le village Kanyarushinya, situé à 4 km au nord de Goma, et également tiré sur les populations civiles pour les intimider. Ils se dirigeront par la suite en direction des positions tenues par les casques bleus des forces d'intervention rapide en ouvrant le feu sur eux. Ces derniers, après quelques coups de semonce pour dissuader l'avancée des éléments armés, riposteront avec fermeté conformément aux règles d'engagement en vigueur, tuant un assaillant et capturant un enfant soldat. 2 autres rebelles ont été blessés au cours de ces accrochages. Par ailleurs, le général Mandefu Kasereka Lianabo, chef Maïmaï opérant dans la région de Beni et supposé être le cerveau de l'attaquant de la prison Kangbayi de Beni le 1er juillet 2013, a été arrêté le 5 juillet par les forces de sécurité congolaises et transféré à Kinshasa le 7 juillet 2013. Ce matin, donc le 10 juillet, aux environs de 6 heures, approximativement 30 éléments armés ont attaqué à nouveau les positions du M23 à Kanyarushinya. En réaction, le M23 a lancé une contre-attaque contre ce groupe pendant que les casques bleus de la MONUSCO en alerte maximale prenaient toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations civiles et bloquer tout mouvement du groupe armé vers Goma. Les assaillants ont ouvert le feu à nouveau sur les positions de la MONUSCO occupées par les forces de réaction rapide qui ont immédiatement riposté en application des règles d'engagement après des cires d'automation pour dissuader l'avancée des hommes armés. 4 assaillants ont été blessés et capturés et 4 assaillants ont été blessés et capturés par la MONUSCO avec 3 armes AK-47 et des munitions, puis soignés par nos troupes et évacués vers l'hôpital de Goma. Entre-temps, à peu près 100 civils du village Kanyarushinya, pris de peur, ont initié des mouvements vers Goma. Les casques bleus continuent de dominer le terrain et la situation est présentement sous notre contrôle. Du 1er juillet à nos jours, au total 11 éléments en provenance de différents groupes armés se sont rendus à nos troupes ou aux troupes congolaises. Il s'agit notamment de 4 du M23, des forces démocratiques de libération FDLR, 1 du groupe Maïmaï et 1 du groupe Nyatura, 4 de divers groupes armés. Au sud Kivu, Le climat sécuritaire restait volatile et imprévisible. Toutefois, il demeure sous le contrôle des forces onusiennes. Depuis le 2 juillet 2013, la force de la MONUSCO poursuit la conduite de ses 11 opérations unilatérales dans les différents territoires de la province du Sud Kivu, avec le double objectif de combler le vide sécuritaire provoqué par le redéploiement des unités FRDC, mais aussi et surtout de sécuriser les populations locales. Au Katanga, rien de particulier à signaler, hormis le fait que des groupes Maïmaï ont repris certaines de leurs activités, rendant ainsi la situation sécuritaire précaire et préoccupante dans cette province. Dans le secteur 2, tout est calme. Et enfin, concernant les statistiques des patrouilles, nous en avons mené 1373 armées, dont 696 nocturnes et fourni 22 escortes, pendant que 309 autres patrouilles ont été menées par les observateurs militaires de la force. Je vous remercie de votre attention.
Merci, mon colonel. Nous allons passer tout de suite aux questions et réponses. Vous connaissez.